n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Non, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clé, clac, clé, clac, ouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour
attends,
à tous.
Margot, fais une...
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Caméra Subjective, le magazine de Radio G consacré à l'actualité du cinéma qui malheureusement est en deuil aujourd'hui avec l'annonce du décès accidentel du comédien Gaspard Huguel, dont peut-être vous aviez vu des films, notamment Juste la fin du monde de Xavier Dolan pour lequel il avait reçu le César du meilleur acteur il y a quelques années. Alors notre émission, vous pouvez l'écouter en direct comme actuellement sur le 101.5 FM, un mercredi sur deux à 19h, ou bien en podcast quand vous voulez sur le site de Radio G à la page de l'émission. Ce soir, nous sommes deux à la technique pour animer cette émission et accueillir nos invités. Bonsoir Andy.
Bonsoir Margot. Une pensée amicale pour Véronique aussi, notre acolyte, qui est en pleine préparation du festival Premier Plan qui aura lieu toute la semaine prochaine à Angers, au Centre des Congrès, au Grand Théâtre, au cinéma Les 400 Coups, entre autres.
Et justement ce soir, nous avons décidé de consacrer l'intégralité de notre émission à ce festival de Premier Plan, qui fête sa 34e édition cette année et a déjà résisté aux travaux du Centre des Congrès, à ceux de la mise en service de la nouvelle rame du tram et surtout depuis 2 ans à l'épidémie du Covid. Alors d'ores et déjà, un grand bravo aux équipes de l'organisation et aux bénévoles qui vont œuvrer à la bonne tenue de cette semaine festivalière.
Le détail du programme et tous les horaires des festivités sont en ligne sur le site internet du festival et on a mis les liens à la page de l'émission. Et ce soir, nous recevons 2 invités pour évoquer en détail une programmation aussi riche qu'éclectique. Louis Mathieu, président de l'association Premier Plan, qui animera comme chaque année une leçon de cinéma autour d'une rétrospective de films. Il est déjà avec nous dans le studio. Bonsoir Louis Mathieu.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On échangera plus particulièrement en deuxième partie d'émission.
Et dans quelques minutes, rendez-vous avec Fabien Agège, l'un des programmateurs du festival, pour parler de la compétition officielle et des nouveautés de cette année, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés.
Avant cela, et aussi pour des raisons techniques, on ne résiste pas à ouvrir cette émission avec le titre qui donne la couleur du festival, Call Center de Rhône, issu de la BO des Olympiades, réalisée par Jacques Audiard et sorti en 2020.
Oh,
Alors maintenant que nous sommes dans l'ambiance de premier plan, on va pouvoir découvrir les coulisses de la programmation avec notre première invitée en espérant que la connectique fonctionne.
Bonsoir Fabien Agège, est-ce que vous m'entendez ?
Bonsoir, je vous entends, et vous ?
Eh bien c'est parfait, merci d'avoir accepté notre invitation en direct.
Merci beaucoup.
Vous faites partie donc de l'équipe de programmation du festival depuis quelques années, et à ce titre vous avez deux casquettes. D'une part, participer à la sélection des films courts et longs métrages qui vont être présentés la semaine prochaine en compétition officielle. Et puis d'autre part, vous êtes chargé d'animer et de programmer des sections parallèles et notamment une toute nouvelle que vous lancez cette année qui s'appelle Vertige. Alors c'est de tout cela que nous allons parler ensemble ce soir. Et je vais commencer en vous posant un petit peu à brûle-pourpoint une question, j'espère que ce n'est pas une question piège, une question de chiffres, savoir combien de projets, longs-métrages ou courts-métrages vous avez pu recevoir cette année pour faire votre sélection ?
Alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais on en a reçu beaucoup. Je crois qu'on a reçu aux alentours de 2700 films qui se sont donc inscrits, sachant qu'à premier plan, on fait un gros travail de prospection, c'est-à-dire qu'on épluche vraiment tous les catalogues de tous les festivals, on écrit à toutes les boîtes de prod, les écoles aussi, afin qu'un maximum de films s'inscrivent, de premiers films, parce qu'on n'a pas envie d'en rater.
Mais c'est vrai que on peut rappeler que Premier Plan, c'est un festival de films européens. Donc il y a des films français et des films qui viennent de tous les pays d'Europe, avec une version assez large, je crois, de l'Europe.
Tout à fait.
Et puis surtout, moi, ce que je trouve vraiment intéressant et qui, j'imagine, correspond à votre travail, c'est qu'il y a énormément donc, de films inédits et surtout de films dont, pour l'instant, pour lesquels il n'y a pas de distributeur en salle. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sûr de pouvoir les voir en salle en France. Donc on peut les voir, par contre, pendant Premier Plan.
Effectivement, c'est sûr que l'un des avantages du festival, c'est à la fois de pouvoir découvrir vraiment des cinéastes, j'ai envie de dire, au berceau, c'est-à-dire vraiment des cinéastes pour qui le festival Premier Plan sera leur premier festival et qui donc ont réalisé soit un premier court-métrage, soit un film d'école. Donc ils sont toujours à l'école et en fait ils vont être reçus à Premier Plan de manière tout à fait inédite pour eux. Puisque les films d'école européens marchent très bien au festival. À chaque fois, il y a quelque chose comme 500 personnes dans le public. Et donc, eux, ils sont très surpris, très agréablement surpris, très flattés. Et en même temps, ça leur met une sorte de pression, de responsabilité. Ils se disent, bon, si le festival m'a sélectionné, si j'ai pu dialoguer avec un public, etc., ça leur donne en fait du courage pour l'avenir. Donc, en matière de films d'école, voilà, il y a encore quelques années, il y a eu des cinéastes. Moi, je me rappelle quand j'étais en stage, je me suis occupé de Julia Ducournau, qui a eu cette année la Palme d'Or, de gens comme Joachim Trier, comme Corneliu Pormuyu, qui ensuite ont fait de très belles carrières et qui, en fait, pour qui Angers a été le tout premier festival. Oui,
oui c'est vrai qu'on connaît aussi Arnaud Desplechin, qui a aussi présenté son tout premier film ici. Enfin, effectivement, vous avez vraiment un rôle de découvreur. Et justement, je m'interroge, quand on reçoit plus de 2000 films, je ne sais pas combien est-ce que vous êtes à les visionner. Comment ça se passe, en fait, à un comité de sélection ?
Alors, ça dépend. Mais déjà, on regarde tous les films. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ça n'a pas l'air bien, on ne le regarde pas ». Une fois qu'un film est inscrit, on le regarde. Ce qu'on fait, c'est que pour tous les courts-métrages et films d'école, en fait, on les regarde en groupe. Donc, on est quatre programmateurs et on est accompagné de trois stagiaires. Et puis, on discute. Et évidemment, on apprend comme ça un peu à se connaître. Et puis, on se rôde. Et petit à petit, évidemment, on ne peut pas regarder tous les films intégralement. C'est-à-dire que si au bout de 5 minutes, on ne trouve pas ça bon, on arrête, ou si on a un doute, on continue quand même, etc. Mais à nouveau, comme c'est des premiers films, en général, on ne peut pas avoir d'a priori. On ne sait pas d'où viennent les films, on ne connaît pas les cinéastes, donc il faut qu'on regarde.
Oui, et en fait, du coup, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces cinq premières minutes ? Comment est-ce qu'on sait qu'on tient quelque chose ? Est-ce qu'il y a une façon d'exprimer ça ou est-ce qu'on le sait et c'est tout ?
Bonne question. Alors, moi, je trouve que ça se sent, c'est-à-dire que ça peut être un peu difficile de mettre des mots là-dessus, mais je trouve qu'il y a des films qui ont immédiatement un regard, qui savent... poser une caméra, une situation, il y a une manière de diriger des acteurs qui est particulière, intéressante, il y a un sujet qui est traité, ce qui ce qui m'importe, moi, c'est de trouver des films qui me semblent consistants, où j'ai l'impression que les personnes qui les font ont envie d'exprimer quelque chose, recherchent aussi, ou alors recherchent à exprimer quelque chose, quitte parfois à ce que leur film soit maladroit, mais en tout cas, ils ne sont pas dans une logique, disons, de flux, de contenu, c'est des gens qui cherchent, c'est des gens qui se posent des questions. Quoi.
Donc c'est un peu l'originalité d'un regard peut-être que vous recherchez.
Tout à fait.
Et est-ce que du coup il y a aussi une attention dans la sélection, une fois qu'on a déjà identifié un certain nombre de projets, de films qui sont intéressants, singuliers, est-ce qu'il y a aussi une approche, peut-être en se disant, bah voilà, il y a des thématiques qu'on a envie de voir traiter cette année, il y a peut-être des genres de cinéma qu'on a envie de pousser. J'imagine qu'il y a aussi une attention, en tout cas j'ai repéré que dans la compétition de long métrage, il y a une parfaite égalité entre le nombre de films réalisés par des hommes et par des femmes. Alors je ne sais pas si c'est un hasard pur ou si c'est quand même une recherche de votre part. Comment ça marche du coup, cette deuxième étape presque de la sélection?
Alors par rapport à la question homme-femme, pour être honnête, le festival Premier Plan, donc comme il s'intéresse à de jeunes cinéastes, on y fait attention, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit énormément maintenant de films de femmes. Je pense que ce n'était même pas le cas il y a quelque chose comme il y a 10 ans. On voit bien, par exemple, dans les sélections du Festival de Cannes, que c'est toujours difficile d'arriver à, à un 50-50.
Nous, même à 20-80. Vraiment,
nous, on n'a aucune difficulté.
D'accord.
On reçoit et on avait discuté l'année dernière ou il y a 2 ans avec le critique et auteur Antoine Debecq, qui est prof de cinéma à l'ENS et qui nous disait, on sent que la cinéphilie est vraiment réinvestie dernièrement par des jeunes femmes qui se sont senties un peu mises de côté et qui ont envie maintenant de s'exprimer par le biais du cinéma.
Et de sortir de l'ombre aussi.
Pardon ?
Je disais pardon, et de sortir de l'ombre, c'est-à-dire de passer l'étape, parce que ce qui était dit jusqu'à présent, c'est que des femmes, il y en avait dans les écoles de cinéma, mais que finalement, un peu au moment de la sortie, elles choisissaient des métiers de l'équipe technique sans être forcément réalisatrices, alors que dorénavant, peut-être qu'elles prennent plus... peut-être qu'elles ont un peu plus la possibilité d'être audacieuses et de réaliser tout de suite leur film. Enfin, je ne sais pas, c'est une hypothèse.
Non, c'est possible, je n'ai pas de règle générale là-dessus, mais il est certain qu'on reçoit beaucoup plus de femmes. Et ensuite, il est certain aussi qu'il y a des questions qui traversent notre société, mais aussi de nombreuses sociétés, notamment des questions de la place des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de films qui se posent cette question de manière évidemment différente. Je pense par exemple à un film qu'on a pris en compétition assez rapidement qui s'appelle Women Do Cry,
oui,
qui est un film réalisé donc, par deux femmes bulgares. Et on a beaucoup aimé ce film parce qu'on avait l'impression que sur des sujets d'émancipation, le film était vraiment fait, j'ai envie de dire, avec les tripes de la réalisatrice, des réalisatrices. On sentait qu'il fallait qu'elle fasse ce film maintenant. On sentait que ce n'était pas un film où elle avait forcément bouclé le budget, par exemple, mais elle avait des choses à exprimer. Il y avait une urgence, notamment parce qu'il y avait un resserrement de vis de la part du gouvernement bulgare, que la situation se tendait extrêmement en Bulgarie. Et donc, elle avait besoin comme ça de s'exprimer, de faire ce film qui nous a paru très fort.
Et donc, j'indique à nos auditeurs que ce film il va être projeté en compétition, notamment le vendredi soir.
Oui,
et le samedi. Parce que comme vous nous donnez déjà l'eau à la bouche, peut-être qu'on peut avoir envie de le découvrir dès la semaine prochaine. Alors, comme vous le disiez, pour beaucoup de ces jeunes réalisateurs, c'est probablement une de leurs premières expériences en festival. Alors du coup, comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce qu'on crée un dialogue avec le public?
Alors, nous, ça nous tient à cœur de très bien les accueillir. Dans beaucoup de festivals, les gens sont invités. On leur donne rendez-vous, rendez-vous devant la salle à telle heure, tel jour, et puis vous présentez votre film, vous faites un débat, bonjour, au revoir. Nous, à Angers, c'est vrai qu'on aime bien justement donc accompagner les réalisateurs, voir donc, comme je vous disais, leur réserver des surprises, c'est-à-dire que souvent ils sont surpris en fait du public, du fait qu'il y ait beaucoup de public, ils sont surpris aussi de la place qu'ils ont, parce que en fait, ils sont très bien mis en avant. Ils ne sont pas dans des sections parallèles ou dans les plus petites salles, ils sont dans les grandes salles. Ils sont bien mis en avant. Et ensuite, il y a une à deux rencontres avec le public, et avec un public qui, souvent à Angers, a beaucoup de questions. Et là, pareil, on encadre ces débats-là. Ouais.
D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y a une section qui m'intrigue. Je sais qu'elle existe depuis quelques années déjà, mais qui s'appelle Diagonale. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu le type de film qu'elle propose par rapport soit au long métrage, soit au court métrage?
Bah justement, Diagonale mêle en fait tous les formats. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner dans la section Diagonale des courts-métrages, des documentaires, des longs-métrages, des films expérimentaux. Et c'est un peu une section donc, qui explose les cases. Notre idée, c'est de passer des films qui souvent sont un peu hybrides. Par exemple, il y a un très beau premier documentaire qui s'appelle « Seuil libré ». Qui est un film qu'une jeune femme qui s'appelle Laure Portier a fait en fait sur son frère, qu'elle a filmé pendant des années. Et c'est vraiment l'histoire d'un homme vraiment littéralement cherche sa place dans le monde. Donc il flirte avec une forme de délinquance, il fugue. À un moment du film, sans vous le révéler, il y a un moment que je trouve bouleversant où en fait le frère va errer en Espagne. Et elle va lui donner une caméra. Et tout d'un coup, on a l'impression que le film change de point de vue et que tout d'un coup, c'est le frère qui prend la mise en scène du film. Et donc, d'avoir un film un peu avec deux regards, deux visions. Et dans ce film-là, c'est très bouleversant. On a aussi un film qui n'a encore jamais été montré en France, qui est un film roumain qui s'appelle Immaculate, et qui est un film très puissant, où là, en fait, le film est basé sur l'expérience personnelle de la réalisatrice. Quand elle était jeune, elle a été en fait, pour le coup, en hôpital psychiatrique. Et elle raconte, elle fictionnalise ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, dans cet hôpital.
D'accord. Donc, Seuil libré, j'ai vu qu'on pouvait le voir dès lundi. Mm-hmm. Et en revanche, Immaculate, je n'ai pas identifié dans quel programme il était.
C'est Diagonale aussi.
C'est Diagonale.
Le vendredi également.
D'accord, ok. Alors, juste pour finir sur cette compétition officielle, en quelques mots, est-ce que vous pourriez décrire le CRU de cette année? Est-ce qu'il y a des thématiques qui se dégagent? Est-ce qu'il y a...
Il y a à la fois des films, disons, qui ont... tous les films ont une portée politique, mais il y a des films qui sont plus... directement politique. Je pense notamment au film d'ouverture, qui est un film très attendu, qu'on est vraiment très heureux de pouvoir proposer, qui s'appelle Flea, qui est un premier film danois d'animation. C'est un documentaire, en fait, d'animation. Et le film est, pour l'instant, présélectionné trois fois aux Oscars, ce qui lui crée un certain buzz en tant que meilleur film d'animation et meilleur documentaire. Il a encore très peu été montré en France. Et ça raconte l'histoire d'un réfugié afghan qui vit au Danemark et qui revient sur son expérience de migrant et sur la manière dont il a quitté l'Afghanistan pour rejoindre le Danemark. C'est un film assez fort. Il y a aussi Le Monde Après Nous, qui est par exemple un premier film français qui est une chronique doux amère sur un couple qui essaye de s'en sortir et de s'accrocher à ses rêves. Il y a Bruno Redal, un autre film français qui, là, est complètement différent. C'est un film vraiment qui nous fait rencontrer, et je dis bien rencontrer, une figure maléfique, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui a assassiné un autre jeune homme et de manière absolument horrible. Et quand je dis rencontrer, c'est qu'en fait, on va un peu traverser sa vie. Et en un sens, apprendre à le connaître. D'accord. Et à la fin du film, on a du mal à le voir comme un monstre. Au fond, on le trouve tout à fait humain, malgré l'acte absolument ignoble qu'il a commis. C'est un film très intéressant.
Bon, tout ça donne vraiment très envie. Alors, j'aimerais juste prendre un tout petit peu de temps pour vous entendre sur les sections parallèles, parce que comme chaque année, le festival sera l'occasion de découvrir des nombreux films en avant-première, en présence de leur réalisateur ou réalisatrice. Il y a des séances spéciales, notamment autour de la comédienne Laure Calamy. Et puis, il y a cette nouvelle section baptisée Vertige au pluriel. Quel très joli nom. Mmh. Alors, parmi cette programmation déjà très riche, à quelle envie répond en fait la création de cette section?
eh bien, elle a envie de passer plus de films de genre, et notamment de genre européen. En fait, on avait déjà, par exemple, fait il y a à peu près 10 ans une rétrospective autour de Jane Boorman, qui nous avait permis de passer des films aussi différents que Délivrance ou L'Exorciste 2. Mm-hmm. On avait fait une rétrospective qui s'appelait L'Altro Cinema, qui vraiment traversait toute une histoire un peu bis du cinéma italien des années 60 et 70.
Avec Jean-Baptiste Auré, il me semble.
Exactement, la rétrospective a été co-créée avec lui. Et puis, cette année, en fait, ça fait longtemps aussi qu'il y avait l'idée de faire une nuit, possiblement, de cinéma, et notamment une nuit de cinéma bis. Moi, je suis très friand, si vous voulez, à la fois de Robert Bresson et de Nana. Et j'aime bien ça en festival.
Et vous êtes jeune aussi. Et on sent que c'est aussi une façon de se tourner vers un public qui, peut-être, n'est pas assez présent en salle.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Mais il y a aussi une vraie diversité en fait du cinéma européen qui, contrairement, j'ai l'impression au cinéma américain qui est un cinéma qui a produit des films de genre, disons, à l'intérieur des studios et qui est dans une logique de studio. On voit aujourd'hui, voilà, vient de sortir Scream 5. Dans le cinéma européen, il y a plein en fait de bizarreries, de films étranges, et donc il y a un peu le désir de pouvoir avoir une section qui les réunit. Et avec cette idée qu'on aime bien à premier plan, c'est-à-dire de prendre des films de jeunes cinéastes, des films très contemporains, des avant-premières, et puis aussi des films de patrimoine. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire cette année. Donc on a par exemple un film dont c'est la première en fait française, qui s'appelle Ego, d'Anna Bergholm, qui est un film finlandais, et qui va passer en parallèle au Festival de Sundance, et chez nous, à premier plan.
Avec aussi l'envie probablement de faire résonner entre ces films, parce que je crois que ça fonctionne sur le principe de 5 soirées, 2 films à chaque fois, qui sont présentés par, c'est aussi ça qui est très excitant, quoi. Manuel Chiche, Bertrand Mandico, etc., qui proposent chacun une sélection, une soirée.
Tout à fait, ouais. C'est l'idée des double features, c'est un peu l'idée des drive-in américain, alors qui n'est pas forcément quelque chose qui se faisait beaucoup en France. Mais en France, il y a quelques cinémas de quartier, notamment à Paris, comme le Brady, des salles comme ça, qui sont des salles légendaires parce qu'on pouvait voir deux films un peu bizarres, hein, à des heures un peu bizarres aussi, comme ça, s'enchaîner. Et nous, on a voulu un peu reprendre cette idée-là. Donc on commence en effet avec Bertrand Mandico, qui était venu il y a 3 ans pour son premier film, Les Garçons Sauvages, et qui revient cette année avec vraiment là un film météorite extrêmement étrange, une curiosité absolue, qui est After Blue Paradisal. Et donc on lui a proposé en effet de faire une carte blanche, et il propose un autre film monde un peu démiurgique comme ça, qui invente des mondes, qui est Zardoz de John Boorman, donc à nouveau de 1974. Et puis, on est parti sur l'idée de conversation avec Manuel Chiche. Donc, Manuel Chiche, c'est un distributeur, et c'est quelqu'un qui a toujours défendu une certaine ligne éditoriale et qui a tout fait pour que des cinéastes audacieux arrivent à émerger, notamment des gens comme Nicolas Winding Refn, lui aussi danois, depuis ses plus jeunes années. Qui a fait Drive, donc là Manuel Chiche viendra parler de Drive, et puis des gens, beaucoup le cinéma coréen, il a beaucoup défendu le cinéma coréen, il a beaucoup défendu Bong Joon-ho, Manuel Chiche s'est retrouvé à être le distributeur de Parasite, qui a gagné la Palme d'Or avec sa toute nouvelle société de distribution qui était The Jokers, et ils se sont trouvés complètement débordés parce qu'ils ne pensaient pas avoir un tel succès, sachant que Bong Joon-ho avait dit je pars avec toi, mais je te préviens, parce que je te suis fidèle, mais voilà, je te préviens, mon film ne va pas marcher, c'est un film très coréen, je ne sais même pas ce que vous allez comprendre du film en France. Bon, le film a fait 1 million de vues.
Fabien, on a envie d'écouter toutes ces anecdotes de Manuel Chiche, et puis surtout de découvrir tous ces films. Un grand, grand merci de nous avoir présenté le festival, votre programmation. Et bien donc, à la semaine prochaine, du coup, dans les salles, puisque vous allez présenter un certain nombre de séances. Et je
tout
rappelle
à fait.
Donc.
Et ça commence lundi.
Merci beaucoup. Justement,
merci,
je rappelle que le festival Premier Plan se tient à Angers la semaine prochaine du 24 au 30 janvier. Et donc, tous les détails de la programmation sont à retrouver sur le site internet du festival. On mettra un lien sur notre page. Et on continue d'en parler rapidement après, non, d'en parler, pas rapidement, avec notre nouvel invité Louis Mathieu, juste après la pause musicale qui, elle, sera rapide, c'était ça que je voulais dire.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
C'était You Never Can Tell de Chuck Berry, issu de la bande originale de Margot, tu sais.
Pulp Fiction, Tarantino, je dirais.
Trop facile. Vous écoutez toujours Caméra Subjective sur Radio G, le 101.5 FM. Et ce soir, on découvre ensemble la programmation du festival Premier Plan, le rendez-vous incontournable des cinéphiles à Angers. Alors, la prochaine édition, vous avez noté les dates, c'est la semaine prochaine. Et avant de retrouver notre deuxième invité, je voulais juste attirer votre attention sur une nouvelle création. Programmé dans le cadre du festival, mais que vous verrez au Shabada, et pas en salle de cinéma. Il s'agit de Vento, du groupe Zur. Zur, c'est un collectif d'artistes, bien connu à Angers, avec des propositions pluridisciplinaires et live. Et dans cette dernière création, c'est le vent qui a le premier rôle, et qui est l'élément principal. Vous verrez 8 personnes, que vous verrez ou pas d'ailleurs, avec instruments, lumière, projection. C'est inédit, c'est au rythme du souffle et ce sera les 26 et 27 janvier à 19h au Shabada. Maintenant, on retrouve Louis Mathieu, qui est donc président de l'association Premier Plan, pour continuer à parler de cet événement unique qui se tient la semaine prochaine.
Bonsoir Louis Mathieu.
Bonsoir.
Donc vous êtes une personnalité incontournable du milieu du cinéma à Angers, notamment dans le domaine de la transmission du 7e art à tous les publics. Car vous êtes aussi le président de l'association Cinéma Parlant qui se consacre toute l'année à des missions d'éducation à l'image. Et vous animez tous les ans, et ça tous les spectateurs fidèles du festival le savent bien, des leçons de cinéma passionnantes autour des réalisateurs ou des thématiques des rétrospectives proposées par Premier Plan. Et donc nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour évoquer les grandes rétrospectives du festival. Alors justement, j'aimerais vous demander, qu'apportent ces rétrospectives et hommages dans la programmation d'un festival tel que Premier Plan ?
Eh bien, Premier Plan, c'est un festival de jeunes cinéastes à destination de jeunes. Donc on a beaucoup, beaucoup de scolaires, c'est un tiers de notre public pratiquement. Et c'est des jeunes qui voient des films dont les cinéastes sont inspirés par des films qui sont sortis il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais qu'eux n'ont pas vus. Et donc, il y a nécessité d'essayer de leur faire apercevoir, et puis surtout de leur donner envie, parce que c'est une question d'envie, de voir les films qui se faisaient donc, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui sont indispensables pour mieux comprendre ce qui se fait en cinéma maintenant. Je pense, on a parlé tout à l'heure de Desplechin, mais Desplechin, c'est quelqu'un qui est nourri, je dirais, au lait de Truffaut, quoi. Et donc, à un moment, on avait fait une rétrospective, une intégrale des films de Truffaut, hein. Voilà. Donc, effectivement, des films des années 40, des années 50, et même des premiers temps du cinéma, hein, il y a un Chaplin et un Keaton. Hein.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est très fort dans le festival, c'est de réussir à mêler à la fois découverte d'un nouveau cinéma européen et transmission de ce cinéma de patrimoine, tout en montrant sa modernité et le fait qu'il peut encore parler, évidemment, au public jeune et moins jeune actuel. Alors, cette année, il y a 4 rétrospectives proposées pendant le festival. La première qui donne son affiche au festival, parce qu'on a tous vu cette eau bleue translucide et ce visage féminin qui nous regarde. Ça, c'est Ondine, le film de Christiane Petzold, dont on va parler un petit peu. Ensuite, il y a la rétrospective Évasion, au pluriel. Et puis, deux grandes figures de l'animation portugaise, dont j'avoue que je ne me lancerai pas dans la prononciation de leurs prénoms et noms, ainsi que le réalisateur Jonas Carpignano. Donc ça fait 4 rétrospectives. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Christiane Petzold ?
Alors, Christiane Petzold, c'est un cinéaste qui donc est arrivé, je dirais, à maturité, à un moment où le cinéma, c'est ce qu'il disait, était complètement dévasté. Dans sa petite ville, il n'y avait plus de cinéma. Et il disait, mais les films qu'on montre à l'étranger, qui sont produits en Allemagne, bah, c'est du Derrick, quoi. C'est des choses comme ça. Et il a incarné vraiment une nouvelle vague allemande. Il y avait eu une nouvelle vague dans les années 60, hein, très très belle, magnifique, avec des films de Wenders, de Fassbinder, enfin bon, on pourrait continuer. Et quand ces cinéastes-là ont ralenti leur activité, ben, qu'est-ce qui restait ? Et Petzold est là, quoi. Avec, je dirais, un regard sur l'Allemagne qui est comme une radiographie. Radiographie des problèmes que connaît la société allemande. Bon, vu de l'extérieur, on connaît la réussite économique de l'Allemagne, mais à quel prix elle a été obtenue ? Ben, c'est ce que Petzold montre. C'est-à-dire cette valeur travail portée au plus haut point. Le travail dans cette Allemagne, tel que la montre Petzold, c'est pas le moyen d'obtenir un épanouissement, un bonheur personnel, une vie heureuse. Non, c'est vraiment une fin en soi. Et tout est fait pour ce travail. Et les gens, en quelque sorte, s'enferment dans une cage d'acier. L'expression, c'est une expression de Max Weber qui décrit au début du 19e les rapports entre ce qu'il appelle l'éthique protestante et le capitalisme donc, qui se développe et qui montre comment effectivement les jeunes gens de cette époque-là, déjà, ils se destinaient, quand ils étaient de famille protestante, davantage à des métiers dans lesquels ils vont pouvoir diriger des entreprises, inventer des processus. Tout cela qui fait effectivement la force du capitalisme, mais qui veut dire aussi, il y a par exemple un film, mais très très évocateur de ça, c'est L'ombre de l'enfant. C'est un film dans lequel on voit un homme dans sa voiture et sa femme qui l'appelle et elle lui dit, mais quand t'es rentré hier soir, t'as fumé ta cigarette, t'as éteint la lumière, t'es allé te coucher et j'étais là moi et t'as même pas vu que j'existais. Voilà, la vie personnelle complètement sacrifiée. Et donc, c'est un film emblématique. Hein, et c'est la suite continue.
C'est aussi un regard sur l'Allemagne contemporaine et la façon dont elle se nourrit de son histoire très récente. Notamment, je pense à la partition de l'Allemagne pendant une trentaine d'années. Et c'est un peu l'objet de plusieurs des films de Petzold. On pense évidemment à Barbara, qui se passe en Allemagne de l'Est, au moment où il y avait encore deux Allemagnes. Et on pense peut-être aussi, même par exemple, à Ondine, son dernier film, avec cette histoire d'architecture de Berlin, il me semble, et de Berlin à ces différentes époques. Donc ça, c'est aussi quelque chose, j'ai l'impression, qui est très fort dans le cinéma de Christian Petzold.
Alors, absolument. Et puis, je voudrais signaler au public un film qui nous apparaît comme un chef-d'œuvre absolu, c'est Phoenix. Parce que c'est une radiographie de l'Allemagne dans ses différentes régions, dans ses différentes strates de population, mais aussi à ses différents moments de l'histoire. Et Phoenix, c'est l'automne 45, et donc une femme qui a été déportée, qui a vécu l'expérience des camps, qui est complètement défigurée, et qui veut retrouver son mari. Bon, je laisse des points de suspension parce que c'est un film absolument bouleversant, et de voir comment elle est emprisonnée par la situation dans laquelle elle se trouve.
Alors c'est vrai que vous le, en parlant des films tout de suite, il y a une autre évidence qui apparaît sur ce cinéaste, c'est qu'il il filme comme personne, presque les femmes, à commencer par la comédienne Nina Hoss, avec qui il a collaboré, je dirais, 4 ou 5 fois au moins, et puis dorénavant c'est plutôt avec Paola Baer, mais c'est, il me semble que c'était le thème d'une de vos leçons de cinéma l'an dernier, sur les femmes à travers le cinéma de Christian Petzold.
Absolument, c'est vrai que c'est un critique qui dit, nous avions Anna Chigoula, c'était l'époque de la nouvelle vague du cinéma allemand, et maintenant c'est Nina Hoss qui incarne une femme allemande dans ce que cela veut dire dans cette société profondément patriarcale, où les femmes sont assignées à une place et ne peuvent pas sortir de cette place, en fait. Elles sont instrumentalisées par les hommes et elles doivent leur existence, je dirais, à la contribution de la réussite de l'homme. Et c'est quand même une place extrêmement réductrice.
C'est-à-dire, oui, que Angela Merkel a peut-être pendant longtemps été l'arbre qui cachait la forêt de femmes peut-être moins libres. Donc, il me semble que vous donnez une leçon de cinéma sur Christian Petzold déjà demain, au 122, Pai Pai, lieu culturel. Et puis, pour tous les films de ce réalisateur sont proposés par Premier Plan. Et ça, j'insiste, parce que il me semble que les deux ou trois premiers sont complètement inédits en salle en France. Ils n'ont pas de distributeur, ils ne sont pas édités en DVD non plus. Donc, c'est vraiment l'occasion de les découvrir. Et vous pourrez normalement aussi rencontrer le réalisateur qui vient à Angers. Ça paraît, c'est un événement. Et il donne une masterclass mercredi 26 janvier en fin de matinée. Alors, il y a une autre grande rétrospective pendant le festival auquel, il me semble, vous avez beaucoup travaillé, qui est celle qui s'appelle Évasion, donc au pluriel, et qui fait se répondre, là, le principe n'est pas exactement le même que sur l'hommage à Christian Petzold, puisque là, ça fait se répondre des films de genres différents, d'époques différentes, autour de cette thématique commune. Alors, justement, comment est-ce que vous avez travaillé à la composition de cette rétrospective ?
Alors, ça a été un coup de téléphone de Claude-Éric Poiroux, fin mars 2020. On était en plein premier confinement. Vous vous souvenez, on pouvait sortir juste pour faire ses courses et pour promener le chien, et un kilomètre, bon, pas plus. Et coup de téléphone, et il me dit une rétrospective sur l'évasion. Ah ben oui, super, on y va. Bon. Et donc, on est parti là-dessus. On fait des recherches, on se retrouve avec une liste de 50 à 70 films. Quoi. Bon, et puis après, on élague un petit peu. Et l'idée qui vient assez vite, c'est de dire que c'est intéressant de montrer des films d'évasion de prison. Bon, bien sûr, c'était déjà un genre, quand on voit tous les films qui sont sortis sur ce sujet-là, dans les années 50, il y avait plein de films d'évasion de prison. Mais on voulait qu'il y ait d'autres formes d'évasion. Évasion d'une situation sociale, évasion par l'imagination. Et donc, on a mis évasion au pluriel. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est d'essayer de ne pas oublier des films qui nous paraissent incontournables, quoi, qui nous paraissent, qui emportent le spectateur. Parce que, par exemple, quand il s'agit d'une évasion de prison, il faut dire que, quand même, tout est fait pour qu'il n'y ait pas évasion. Bon. Et donc, celui qui se lance dans cette entreprise, il doit faire preuve d'une énergie, d'une persévérance, d'une ruse, d'astuce qui en font un personnage d'exception, quoi. Et là, le spectateur, il se laisse emporter par ça. Et il ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison ? Pas forcément, en tout cas. Ce qui l'intéresse, c'est voilà, ce qui se met en place comme action et qui va faire que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Parce qu'attention, il y a le moment de l'évasion, et puis après, il y a la cavale pour ne pas être repris tout de suite à la sortie de la prison. Hein. Donc, ce n'est pas simple, tout ça.
Et donc ça, du coup, pour illustrer cette thématique, vous avez choisi à la fois, comme vous le disiez, des très grands classiques, donc des films à la fois de Buster Keaton, La Grande Illusion de Jean Renoir, Thelma et Louise aussi de Ridley Scott, et puis peut-être des films plus contemporains, alors que soit les spectateurs auront peut-être déjà vu, comme Mustang ou La Panthère des Neiges, et puis même un documentaire assez intriguant qui s'appelle This Train I Ride, et qui là est complètement, pareil, assez inédit aussi en salle, parce qu'il me semble qu'il était initialement prévu pour être une œuvre audiovisuelle. Et pour donner ce sens à la rétrospective, vous proposez une leçon de cinéma autour de cette thématique qui a lieu aussi mercredi 26 janvier. Donc il faudra enchaîner votre leçon de cinéma à 10h30, puis Christiane Petzold. Mais, parce que je n'ose croire que vous vous ferez concurrence. Mais du coup, comment ça se passe cette leçon de cinéma ?
Alors cette leçon de cinéma, c'est beaucoup, beaucoup d'extraits et une réflexion commune menée avec ceux qui sont là sur, je dirais, toutes les répercussions, toutes les correspondances, les résonances que peuvent avoir ces films d'évasion. Et je trouve que, enfin moi, ce qui me passionne, c'est de toucher à d'autres disciplines artistiques comme la peinture, comme la littérature, comme... tout ce qui peut être du côté de la musique aussi, bon, je pense à la philosophie aussi. C'est-à-dire que, en fait, cette question de l'évasion, eh bien, c'est au cœur, par exemple, d'œuvres de très grands philosophes comme Lévinas, hein, ou comme François Julien, qui est très contemporain, qui a écrit un livre aussi très intéressant, Qu'est-ce que c'est que la vraie vie ? Et la vraie vie, c'est François Julien qui arrive à cette idée-là, que pour penser à ce que c'est que la vraie vie, c'est pas forcément la vie heureuse, mais c'est une vie consciente, et consciente notamment de ce qui aurait pu se passer, de ce qui se passe quand on est enfermé dans une prison ou quand on est enfermé pour d'autres raisons.
Alors plus rapidement, peut-être on pourrait évoquer les deux dernières rétrospectives en juste quelques mots. La première, j'ose pas appeler ça une rétrospective, peut-être que c'est un hommage à un jeune réalisateur, Jonas Carpignano. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce cinéaste ?
Alors, c'est un cinéaste vraiment passionnant. Là, il y aura 3 films. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, je dirais, au début d'un itinéraire. Hein. Il continuera certainement. C'est quelqu'un, quand même, qui a été assistant réalisateur des Bêtes sauvages. Hein, voilà. Et...
Il est italien, je précise.
Il est italien et il a choisi, alors il est d'origine à la fois new-yorkaise et italienne, et il a choisi de vivre en Calabre, hein, tout en bas de la botte là, et il observe ce qui se passe autour de lui. Donc il a fait un premier film Méditerranéa sur les migrants, et là, il y a quelques acteurs, mais le plus souvent c'est des gens qui sont en train de vivre ce qui apparaît au cinéma. Donc il y a un mélange entre documentaire et fiction, bon, et c'est quelqu'un qui est très attentif au visage, qui est très attentif aux personnes qui deviennent des personnages. Le deuxième film qu'il a fait, c'est donc...
Il y a Akiambra et Akiara.
Voilà, Akiambra. Donc, Akiambra, on est dans une famille clanique, donc de Rome, et qui vit en voilà avec des petits larcins, des petits vols, des choses comme ça. Et bien sûr, on peut avoir des jugements moraux qui nous viennent à l'esprit, mais quand on voit comment ils vivent, et Carpignano nous montre des contextes, c'est-à-dire quels sont leurs logements, quels sont ce qui pourrait être des ressources, bon, eh bien, on voit qu'ils sont dans la survie et qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de vivre comme ils le font, et que c'est une vie quand même faite d'instabilité, de souffrance, de violence, qui n'est enviable pour personne. Et là, on est amené à comprendre la logique, ce qui les anime, quoi.
D'accord. Eh bien, je ne suis pas trop sûre qu'on aura le temps de développer la dernière rétrospective qui est consacrée au cinéma d'animation portugais. Alors, en quelques mots...
Quelques mots, parce que je dois dire que quand j'ai fait une présentation à la Roseraie, c'est ça qui a été applaudi. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une invention dans les techniques d'animation, avec par exemple du grattage sur du papier glacé, ou technique de sable aussi. Et donc, Regina Pessoa et puis Abi Fecho, c'est quand même deux très très grands cinéastes d'animation avec des films absolument superbes. Ils ont été applaudis quoi, à la Roseraie. Hein.
Bon ben on a vraiment hâte de découvrir ça. Un grand merci Louis-Mathieu d'être venu nous en parler derrière ce micro.
Merci à vous.
Ouais, un très grand merci, vous l'avez compris, le programme est riche, très vaste. Laissez-vous surprendre, allez découvrir les séances, même au hasard. Il y a forcément des belles choses à voir. Et pour conclure cette émission, je vous redonne toutes les infos concernant le festival Premier Plan. Alors les dates, si vous ne les avez pas déjà notées dans votre agenda, c'est du 24 au 30 janvier, lundi à dimanche prochain. Plusieurs lieux vous accueilleront, mais principalement le Centre des Congrès, le Grand Théâtre et les 400 coups. Un mot aussi pour vous parler rapidement de l'opération 7 x 7 égale 49, comme chacun sait, car cette année, ce sont 7 cinémas du département qui accueillent Premier Plan, avec 7 séances de compétition, avant-première et rétrospective, et 2 séances jeune public. Ça peut vous intéresser si vous êtes près de Segré, Lys, Auléon, La Pommeraye, Beaugé, Ingrande, Saumur ou Cholet. Le festival se promène à travers tout le Maine-et-Loire. On a mis les liens pour voir le détail de cette tournée sur le podcast de l'émission. Notez également une nouveauté côté billetterie, ce sera comme dans un cinéma, ça c'est important. C'est fini les tickets rouges, il faudra acheter une place pour chaque séance et avant de faire la queue. Donc fini hein, le fait d'attendre pendant des heures devant une séance et de vous voir refuser l'entrée après car la salle est bondée. C'est aussi un format plus compatible avec la situation sanitaire actuelle. J'espère que c'est tout dit et vous pouvez réserver en ligne. Oui, vous avez envie d'ajouter des choses.
Juste une petite chose, c'est que ça se fait par Internet, mais ça peut se faire aussi au guichet ou ça peut se faire par téléphone.
Bon, vous avez 3 solutions. Voilà. On vous invite à réserver, c'est plus sûr, si vous ne voulez pas rater les belles programmations dont on a parlé ce soir. Et rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les infos, vraiment tous les liens sont en ligne sur le podcast. C'est déjà le cas, donc vous pouvez vous ruer sur le site de Radio G.
Faire exploser le site.
On compte sur vous. Tapez caméra subjective Radio G, vous allez trouver tout de suite. Cette fois-ci, l'émission est bien terminée. Un grand merci à nos invités, Fabien et Louis. Et un grand merci, Margot, pour toute cette émission.
Merci beaucoup aussi.
Allez. On se retrouve dans 2 semaines, le 2 février. On parlera distribution de films pour le jeune public. Bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée, bon festival.